Et Monsieur Messas, notre ami David Messas, qui est un des professeurs de pensée juive traditionnelle au centre, et qui va nous parler ce soir du deuxième sujet de la série de conférences sur les visions catastrophiques de l'histoire. Ce sujet porte directement sur l'enseignement du Peri Tzadik, c'est-à-dire du Rav Tzadok HaKohen de Lublin, sur le texte de la Genèse concernant le déluge. Je lui passe immédiatement la parole. Je me réserve.
Je voudrais tout d'abord dire que j'essaierai au maximum ce soir de rester tout près des textes et que mon rôle est de me référer à la Bible et d'essayer de l'expliquer sans qu'il y ait aucune référence ni aux événements actuels ni à ce qui se passe autour de nous. C'est simplement mon ambition s'arrête là. Après, si on peut trouver qu'il y a entre le texte et certains événements actuels quelques rapports, à vous seul de tirer ces conclusions. Quant à moi, je voudrais simplement faire devant vous, et j'espère après ensemble, une étude de texte. Voilà. Et une certaine analyse d'un texte biblique qui, à mon avis, enfin que je pense, mérite d'être analysé, sur lequel on peut tous réfléchir. Le déluge est longuement analysé dans le texte et je voudrais parler tout de suite de trois thèmes. Le premier thème, c'est la signification de ce qu'on appelle un ketz. Ketz, le mot ketz en hébreu, qui signifie à la fois limite et qui signifie en même temps un début, une fin et un début. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur la notion de travail, parce que vous verrez que cette notion est très analysée dans le texte, sur la notion de ce qu'on appelle en hébreu « avoda ». Le troisième thème, ça sera la dixième génération, puisque le quatrième thème, ça sera le thème de l'eau. Et puis le cinquième thème, ça sera le thème du Shabbat. Et c'est autour de ces cinq axes, si vous voulez, que va s'organiser notre réflexion sur ce texte. Le texte nous parle très longuement. Quand Dieu intervient dans cette génération, il est dit « Ketz kol basar balefanai, ki malei haaretz chamas mipenechem. » C'est « La fin de toute chair est arrivée devant moi, car cette terre a été remplie d'injustice, de méchanceté, d'iniquité. » Et que Beineni Mashrita Metaharez, et après je vais les exterminer. Voilà le texte. Ketz Kol Basar, c'est la fin. Si la Torah a insisté énormément pour utiliser ce terme de Ketz, c'est parce que le mot Ketz, dans notre pensée, dans la pensée juive, dans la mémoire juive, se réfère toujours à un événement extrêmement important qui est l'événement messianique. Puisque le Ketz, dans notre pensée, c'est la fin des temps, c'est le temps de l'événement messianique. Il y a même un terme dans le Talmud qui dit « Tipah Rucham shel mechashevei kitzin » que ceux qui font des comptes pour le temps du Messie, eh bien, on n'a pas le droit de les compter, c'est pas le moment de... Ça veut dire que si la Torah parle de Ketz, c'est qu'il s'agit d'un temps de prédilection, d'un temps choisi dans l'histoire, c'est un temps messianique. C'est un temps de révélation messianique. C'est un temps où il y a confrontation entre les événements. C'est un temps d'extrême. C'est un temps d'extrémisme, si vous voulez, où les choses ne peuvent pas se passer d'une manière banale, d'une manière courante. Non, c'est un temps charnière de l'histoire qui fait qu'un certain moment est terminé et un autre va commencer. Voilà, le ketz. Les temps messianiques sont considérés comme des kitzin, comme des moments extrêmement importants. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ça la première remarque, et les deux tailles, c'est que ce n'est pas n'importe quelle génération que cette génération du déluge. On la présente généralement, quand on lit le texte, comme étant une génération de gens qui se sont laissés aller dans les mœurs, qui ont été pourris, qui ont pratiqué toutes sortes de laisser aller dans toutes sortes de domaines. Ce n'est pas ce que nous dit le Midrash. Cette génération est une génération absolument extraordinaire sur tous les plans, comme nous allons voir par la suite. Et c'est dans cette génération que le Mashiach, que le Mashiach devait arriver. Normalement, c'est la génération de la fin des temps. C'est la génération de l'évacuation de tout ce qui pouvait empêcher l'histoire de s'épanouir à son maximum. Si vous voulez, c'est la génération dans laquelle la faute originelle, la faute d'Adam Harishon, aurait dû être complètement évacuée. C'est cette génération qui est la génération du déluge. J'ai voulu vous parler comme ça tout de suite de ce quête pour montrer que les problèmes qui sont posés dans cette génération sont des problèmes qui dépassent simplement le problème de Hamas, c'est-à-dire du vol, sont des problèmes qui dépassent simplement les problèmes du conflit avec les problèmes des tentations ou de la violence. Il s'agit d'un problème de civilisation qui est absolument capital et qui, effectivement, n'est pas encore, aujourd'hui, en 1980, complètement évacué. Voilà. De quoi il s'agit exactement, puisque c'est une génération messianique, et puisqu'elle a touché du doigt le Messie et qu'elle a échoué. Échoué tellement que, finalement, il fallait tout raser et tout recommencer ensuite. Mais on était ici dans la période des extrêmes. Ça correspond d'ailleurs à ce que le Talmud dit dans la Gemara, « En ben David ba, en abedor shekulo chayav, obedor shekulo zakai. » Le fils de David ne viendra que dans une génération qui est complètement méritante ou qui est complètement non méritante. Je ne veux pas traduire coupable. Complètement non méritante, ce qui veut dire que le Messie n'arrive que dans une situation d'extrême, dans une situation limite, dans une situation de quête. Et c'était le propre de cette génération. Voilà, première remarque. La deuxième remarque est la suivante. C'est que le texte biblique nous raconte, lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam Harishon, il l'a mis dans le jardin de l'Éden, et l'Eravda ou le Shomra. Le texte est très simple. Il l'a mis dans le jardin de l'Éden, l'Eravda pour y travailler et pour le garder. Il y avait un rôle économique extrêmement important pour l'homme, c'est qu'il ne... Il devait avoir une relation d'investigation avec le monde. Il fallait transformer le monde. Il fallait faire en sorte que le monde devienne habitable, devienne vivable pour ceux qui vont l'habiter par la suite. Ça, c'est la traduction littérale du texte. Le Midrash nous raconte autre chose. Vayasem sham et Adam le'avda u'shomra le'avda shemitzvot ase le'shomra mitzvot lo ta'ase. Pour travailler, en quoi consiste le travail? C'est de pratiquer les mitzvot positives. Être oved, c'est faire les mitzvot positives, et les shomra pour le garder, c'est d'éviter les fautes négatives. En d'autres termes, s'il devait habiter dans l'Éden, c'est pas du tout pour travailler la terre, c'est surtout pour pratiquer un autre service, un autre travail. Il y a une ambiguïté dans le mot avoda, la avoda, ou c'est la avoda ha'aretz, ou c'est le travail de la terre, ou c'est avoda tachem, ou c'est le service de Dieu. Les deux termes sont employés par le même mot, le service de Dieu ou le travail de la terre utilisent le même terme, mais s'il y a dégradation, comme nous allons l'expliquer tout à l'heure, eh bien on passe de Avodat Hashem à Avodat Haaretz. S'il y a réussite, nous allons rester dans le domaine de Avodat Hashem. En quoi cela consiste? Normalement, il était, d'après le texte biblique, ce premier homme, il était donc installé dans une terre où il n'avait pas besoin de travailler, où il n'avait pas besoin de production, puisque le texte nous dit qu'on pouvait planter. Et au lieu d'avoir tout le système intermédiaire entre le moment où vous avez la graine jusqu'au moment où vous avez le pain, eh bien, quand on plantait, ce n'était pas des graines qui poussaient, c'était le pain qui poussait. C'est-à-dire qu'on avait fait l'économie de tout ce travail d'investissement de l'homme qui consiste à planter, à labourer, à semer, à couper. Il fallait simplement jeter un grain et tout de suite, il y avait du pain et on pouvait se servir et puis voilà. Mais le temps dont disposait l'homme et dont il était libre, il devait le consacrer à autre chose qu'à l'investissement économique. Mais ceci pose un problème. Et le problème est le suivant, c'est que à partir du moment où l'homme, le premier homme, était libéré du travail économique, à partir du moment où il était disponible en ce qui concerne l'investissement dans le travail, eh bien, il devenait à la fois disponible en ce qui concerne la plénitude de son propre temps. Je vais essayer de l'expliquer, si je peux me permettre, avec un autre passage du Talmud, qui est tout à fait étonnant. Le Talmud dit la chose suivante. « Goy sheshavat chayav mita ». C'est un texte très très étonnant. Un goy, un non-juif qui a pratiqué le Shabbat, il est passible de mort. Très étonnant. Oui, c'est un texte qui existe. « Goy sheshavat chayav mita ». Et en réalité, je vous le dis parce que je sais que je vais vous le commenter tout de suite, il ne faut pas que ça s'arrête là, parce que ce serait dangereux de dire que quelqu'un qui a pratiqué le Shabbat, eh bien, il est passible de mort. Ça veut dire la chose suivante. Pratiquer le Shabbat, c'est avoir un jour disponible sur le plan matériel. Avoir un jour dans lequel il n'y a pas d'investissement dans la vie économique et dans le travail de tous les jours. Si on pratique le Shabbat à la manière d'un goy, c'est-à-dire en restant libre du travail et non investi dans une activité spirituelle ou dans une activité autre que le travail matériel, alors lorsque l'homme reste disponible avec son propre temps, il peut devenir dangereux. Parce que il a un temps libre dans lequel il n'est pas investi, et à partir du moment où il est disponible, sans avoir une plénitude qui puisse lui remplir son propre temps, l'homme, en ce moment-là, peut devenir dangereux. Donc, goy she shabbat, quelqu'un qui a pratiqué le shabbat, non pas à la manière d'un juif, mais à la manière d'un goy, en pratiquant simplement le temps libre, sans que ce temps puisse être plein, eh bien, il peut le conduire, cette disponibilité peut le conduire à devenir un fauve dangereux. Par contre, le Shabbat, c'est quoi ? C'est un temps qui est d'une plénitude extraordinaire, dans la mesure où, libéré de l'activité économique, on est disponible pour autre chose. On est disponible pour le remplir d'une autre manière. Mais le temps vide, le temps qui n'est pas plein, le temps qui est entre parenthèses, est un temps qui peut être considéré comme dangereux pour celui qui est devant ce vide sans plénitude. Voilà donc l'explication de ce texte du Talmud. Je pense que c'est là, d'ailleurs, je l'ai entendu une fois de Manitou. Goy Shabbat Chayav Mita, il n'est Chayav Mita que dans la mesure où il n'a pas pratiqué le Shabbat comme il faut le pratiquer, parce que, je crois que les statistiques le montrent, les jours où les gens ne travaillent pas, eh bien c'est là où les problèmes, les plus graves problèmes peuvent se poser, c'est là où les meurtres peuvent se faire, c'est là où les disputes peuvent exister, c'est là où les gens sont disponibles, eh bien ils peuvent devenir quelquefois dangereux. Mais par contre, il y a une disponibilité extrêmement positive qui consiste à remplir son temps, même quand il n'est pas investi dans le travail économique. Si bien que l'homme au départ, d'après la Bible, lorsqu'il a été installé dans le jardin de l'Éden, il était là, le'ovda ou shomra, ça veut dire pour faire mitzvot ase et mitzvot lota ase, pour pratiquer la loi morale, si vous voulez, et remplir son temps d'activité spirituelle, entre guillemets d'activité spirituelle. Mais par contre, à partir du moment où il y a eu faute, à partir du moment où on n'était plus capable d'être à même de remplir ce temps par lui-même, il y a dégradation, on est tombé du cadre du travail. La même avoda, c'est la même avoda. Au lieu que ce soit avodat Hashem, c'est devenu avodat Haaretz. Au lieu que ce soit Shemirat HaMitzvot, c'est devenu Shemirat Haaretz. Vous voyez ? Et tout de suite après, on a l'impression, par la suite dans le texte, si vous prenez le texte de la Bible, vous verrez, que la malédiction a consisté en quoi ? En disant à l'homme, Bezeat apecha tochalechem, hachoucha ila adama kimina, mila lukarta ou michel tachou. Maintenant, tu vas travailler la terre à la sueur de ton front. Alors, c'est considéré toujours, vous savez, certains livres antisémites, ils vous disent, regardez, la Bible considère le travail comme étant une malédiction. C'est faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme est après la faute, c'est-à-dire en état de dégradation, il y a un seul moyen de le libérer, c'est qu'il ne puisse manger son pain qu'à la sueur de son front. Mais s'investir dans le travail est une forme de libération. Mais c'est une forme de libération qui ne peut exister que dans la mesure où l'homme est en état de disgrâce, vous voyez, en état de faute. Une fois... Tout le chemin consiste à faire quoi maintenant ? À se libérer du travail économique pour pouvoir être capable de conquérir son propre temps et de le remplir à la manière du Shabbat. Voilà le chemin que l'homme a à faire après la faute du veau d'or. Il va s'investir dans le travail pour se libérer de ce travail, rencontrer son propre temps et être capable d'assumer le temps à la manière du Shabbat et non pas à la manière du vide du temps. La rencontre de l'homme avec son propre temps est une rencontre angoissante. Est une rencontre tragique, nous le verrons par la suite. Or, le chemin que nous devons parcourir, ou que l'homme doit parcourir pour retrouver la porte de l'Éden qui lui a été fermée, c'est justement ce chemin qui consiste à le libérer du travail économique. Cette libération du travail économique va lui permettre de devenir plus disponible par rapport à son propre temps, et que la rencontre avec le temps ne soit plus une rencontre tragique et destructrice, comme nous allons le voir par la suite, mais au contraire, une rencontre extrêmement féconde, extrêmement enrichissante, une rencontre shabbatique. En d'autres termes, si je veux, vous permettez encore une explication, tout le temps consiste, tout le travail consiste à retrouver le temps du Shabbat. À ce que l'homme qui a été renvoyé du jardin de l'Éden puisse y entrer pour pouvoir retrouver le temps du Shabbat. Je pense que tout le monde chante ce beau chant le soir du Shabbat. Me'en olam haba, yom Shabbat menucha, que le jour du Shabbat, il y a une sorte de résurgence du monde futur. Et c'est ça l'explication. Ça veut dire que lorsqu'on pénètre dans le Shabbat, on pénètre dans cette disponibilité économique qui veut faire qu'on doit rencontrer le temps. J'ai dernièrement eu un enseignement de mon père qui m'a dit « Mais Shabbat » pour détendre un petit peu « Mais Shabbat ben Israël est à Shabbat » que le peuple juif, Israël, doit garder le Shabbat. Il doit le garder, le Shabbat. Alors il m'a dit qu'il y a le Shabbat qui est le jour du Shabbat, mais il y a quelqu'un dans la communauté qui s'appelle Shabbat. Il y a le Shabbat des Juifs. L'homme juif qui s'appelle le Shabbat des Juifs, c'est le Talmid Chacham. Celui qui étudie toute la journée est Shabbat puisqu'il ne travaille pas. Lui, il ne fait, alors que nous, on doit travailler toute la semaine et étudier le jour de Shabbat, lui, il est le Shabbat des autres, parce que lui, il ne travaille pas toute la semaine, mais il ne fait qu'étudier, et tout son temps est un Shabbat. C'est pourquoi Béchamérou, Béné Israël, est un Shabbat. Un Talmid Chacham, à partir du moment où il est disponible, et qu'il consacre tout son temps à l'étude, eh bien, il a besoin de le garder. Et c'est le peuple juif tout entier qui doit garder son Shabbat. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a, pour revenir à notre analyse, première analyse, c'est le Ketz. C'était un Ketz, puisque c'était un temps messianique. Deuxièmement, nous avons parlé de ce problème de la avoda, ce problème du travail, et nous avons dit que tout le travail de l'homme, le chemin qu'il a à parcourir, était de revenir au jardin de l'Éden, mais revenir au jardin de l'Éden, je m'excuse d'allonger par c'est ça le point le plus important de l'analyse, c'est de faire ce chemin qui consiste à me libérer du travail économique pour me rendre disponible, mais cette disponibilité qui était dangereuse va devenir féconde parce qu'il y a une rencontre positive du temps, c'est la rencontre du Shabbat. Voilà le champ. Mais ce temps étant le temps du Ketz, c'est-à-dire la dixième génération de la création étant un temps messianique, ça veut dire que c'est la seule génération qui était capable de réussir ce chemin. C'est la seule génération qui était capable de faire ce retour pour pouvoir réussir ce chemin. Et nous allons voir de quelle manière. Il y a un texte dans le Zohar qui explique que dans cette génération, il y a une neshama qui aurait dû exister, qui a existé d'ailleurs. Quand je dis une neshama qui aurait dû exister, et ça je voudrais qu'on l'explique une fois, enfin on s'explique, qui devait faire le tikkun, qui devait tout réparer. Cette neshama, cette personnalité, cette personne, c'était la personne de Moïse. Moïse étant celui qui a apporté la Torah au peuple juif, ça aurait été le vrai Mashiach du peuple juif. C'est lui qui sépare Moshe Rabbeinu que non pas seulement le peuple juif, l'humanité tout entière aurait dû être sauvée et que, quoique ce mot-là, je n'aime pas beaucoup, que l'humanité sauvée, que la première faute aurait pu être évacuée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu et l'âme de Moshe Rabbeinu était en ce temps-là présente, que sa personne était présente, toutes les conditions étaient présentes pour qu'un Moïse puisse apparaître. Au lieu d'un Moïse qui est apparu, c'était Noach qui est apparu, et nous verrons tout à l'heure la grande différence qui existe entre Noach et Moshe Rabbeinu. D'habitude on les compare à Abraham, je vais essayer ce soir de le comparer à Moïse. Il y a un texte tragique dans la fin de Bereshit que je voudrais voir avec vous. Ce texte est le suivant. Vayar Hashem ki rabba ra'ata adam ba'aretz. Dieu a vu que la méchanceté de l'homme était devenue très grande sur la terre. Hein, la méchanceté de l'homme, ki rabba ra'ata adam ba'aretz. Vechol yetzer machshevot libo rakra kol hayom. Et toutes les tendances et les tentations de son cœur sont que la méchanceté toute la journée. Je traduis le mot à mot. Vinachem Hashem ki asa et adam ba'aretz ve'itasem libo. Et Dieu a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre et il était triste dans son cœur. Vayom et Hachem, Dieu a dit, Emchei et Adam Sher Barati, je vais effacer l'homme que j'ai créé du dessus de la terre, l'homme, l'animal, tout ce qui rampe sur la terre. Kinichamti ka asitim, car j'ai regretté de l'avoir fait. Mais Noach Matsachen ben Hachem, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais je ne m'arrête pas ici. Et voici les gens du monde noir. Pourquoi je ne m'arrête pas ici? Parce que je crois que si Noir a trouvé grâce à Dieu, ce n'est pas à cause de lui-même, c'est parce qu'il y avait des engendrements. Mais elle est Toldot Noir. Noir était celui qui apportait simplement Abraham, mais en lui, il n'y avait rien d'extraordinaire. Je voudrais m'arrêter simplement sur un mot dans ce passage. Parce que quand il s'agissait de cette catastrophe, cette destruction du monde, elle s'est faite par un des quatre éléments de la tradition. Entre les quatre éléments, c'est Ruach, Ruach, Afar, Efer et Esh. Bon, on va prendre Maïm, Esh, on va prendre un des quatre éléments qui est l'eau. Ce n'est pas n'importe quel, ce n'est pas le feu qui a détruit le monde, c'était l'eau. Et ce n'est pas par hasard que ce soit l'eau, parce que nous allons expliquer la symbolique exacte de l'eau. Et le texte dit que lorsque Dieu a voulu provoquer cette catastrophe, il a dit « Emre et à Adam ». Il dit « Je vais effacer l'homme ». Il n'a pas dit « Je vais le brûler, je vais le détruire, je vais effacer ». Or, le mot « effacer », d'après le prêtre tzaddik, a une signification tout à fait particulière. Effacer quelque chose, ça veut dire ne pas la détruire. Vous ne détruisez pas ce que vous effacez. Lorsque vous avez une écriture sur un tableau et que vous avez effacé, la matière n'a pas disparu puisque la craie est toujours là, c'est le dessin qui a disparu. Et le prêtre tzaddik explique qu'en réalité, ce qui a disparu, c'est la forme de l'homme, mais non sa matière. Et je vais me référer ici, je crois, à une explication du Maharal de Prague que le prêtre tzaddik ne cite pas, mais qui est sous-jacente à toute son explication et qui est la suivante. Le Maharal dit que finalement, l'histoire juive toute entière, elle est traversée par l'histoire de l'eau. Il ne le dit pas comme ça, mais je crois qu'à travers tous les textes de Shemot, on voit qu'elle est entièrement centrée sur l'histoire de l'eau. Lorsque le monde a été créé, vous verrez ça dans les textes, qu'est-ce que la création du monde, après le premier acte créateur? C'est la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Vayavdel Elohim ben Hamayim, Asher me'al Hashamayim, ou ben Hamayim Asher tahat l'arakia. Il y a l'espace qui est apparu, et quand il est apparu, qu'est-ce que c'est? C'est les eaux d'en haut qui sont restées suspendues, et les eaux d'en bas qui sont restées dans le Tehom, dans les abîmes, et voilà que le monde est apparu, parce qu'il y a séparation des eaux. Vous savez que le Maboul, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre de ces eaux. C'est tout ce qui est arrivé. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont rencontrées, et puis voilà le déluge. Mais l'existence du monde, c'est quoi? C'est la séparation des eaux. Mais l'eau est symboliquement ce qui est le contraire de l'identité de l'homme. Parlons de Moïse, il y a un très beau texte qui dit « Baikah Moshe et Atzmot Yosef Aimo » que Yosef a pris l'identité de Joseph. « Baikah Moshe » Qu'est-ce que j'ai dit? Vaikah Moshe et Atzmot Yosef Imo. Que Joseph a pris avec lui les ossements de Joseph.
Que Moïse a pris avec lui.
Ah, Moshe. Que Moïse. Alors Moshe, c'est Moïse. Alors j'arrive pas à dire Moïse. J'ai appris Moshe avant Moïse. Alors que. Parce que je préfère dire Moshe, parce que Moïse.
J'ai dit Joseph.
Avant, excuse-moi. Vaikah Moshe et Atzmot Yosef Imo. Alors Moshe, c'est Moïse. Mais je reste dans le mot Moshe. Pourquoi? Parce que le symbole du nom est extrêmement important et je vais l'analyser tout à l'heure. Moshe, c'est quoi? On va en parler tout de suite. Vous voyez, c'est en rapport avec l'eau. Le nom de Moïse, le nom de Moshe, Kimin Hamayim Meshitihu. Car Moïse, on traduit en général, il a été sauvé des eaux. Non, on peut le traduire d'une manière un petit peu. C'est celui qui sort des eaux. Je l'ai moi sorti des eaux, mais Moshe, puisqu'il n'est pas marqué Mashouï, il aurait pu s'appeler Mashouï, Moïse. Mashouï, ça veut dire quelqu'un qui a été sauvé des eaux. Mais Moshe est celui qui se sauve des eaux. La traduction est tout à fait différente. Ça veut dire que Moïse est l'homme qui émerge continuellement de l'eau. C'est l'homme qui, par un effort personnel, sort de la matière pour pouvoir exister. C'est une forme qui se maintient dans son existence par un effort perpétuel. Et je vais expliquer un peu plus, pas le Maharal, c'est pas l'explication, c'est le Maharal de Prague qui dit que parmi tous les corps, l'eau est le seul élément qui a matière et pas de forme. Qui a matière et pas de forme, puisque l'eau prend les formes de tous les objets dans lesquels elle est contenue. Vous mettez de l'eau dans une bouteille, bien, il prend la forme de la bouteille. Vous mettez l'eau dans un verre, il prend la forme du verre. Donc l'eau est, par définition, matière sans forme. Et il y a tout un développement, évidemment, il cite beaucoup Maimonide ici, et Maimonide qui, dans la terminologie ici, est celle d'Aristote, qui parle beaucoup de Homer Vetsura, de la matière et de la forme, et il trouve effectivement que ce qui est important dans l'homme, c'est beaucoup plus sa forme que sa matière. Puisque sa forme, c'est, enfin il parle très très longuement, que Dieu a pris la poussière de la terre, il a soufflé sur cette poussière de la terre, et il en a fait un homme. La poussière de la terre, c'est la matière. Or, la forme de l'homme, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu qui est en lui. Ça, c'est le texte. Si nous avons une forme, la forme que nous avons, mais pas simplement la forme physique, mais la conscience que nous avons de notre propre identité, la conscience que nous avons de notre propre être, de notre engagement et de notre avenir, et de notre situation dans le monde, cette conscience que nous avons, c'est le souffle de Dieu qui est en nous et qui s'appelle la forme. C'est ça ce qu'on appelle la tsoura par extension. Et de même que toute tsoura, toute forme, et les esprits, par exemple, je ne sais pas, c'est Maharal, il explique, il cite le Maïmonide, il dit, vous avez, je ne sais pas, une chaise, cette chaise que vous avez, il y a une forme et une matière, mais la forme a existé dans l'esprit de celui qui l'a créée avant d'exister dans la matière. Si bien que la chaise elle-même est intelligente dans la mesure où il y a l'esprit de l'homme qui est incarné à l'intérieur de la chaise. Bon, ça c'est quelque chose, c'est la philosophie la plus simple, mais et dans l'homme, c'est exactement pareil, il y a la tsoura de l'homme et la matière de l'homme. La matière de l'homme est symbolisée par l'eau, la forme que nous avons, c'est ce qui est esprit en nous et qui représente l'acte créateur de Dieu. Puisque la matière qui est en nous, elle fait partie de la terre, et s'il y a nouvelle création, c'est parce qu'il y a un souffle qui est en nous, et c'est ce souffle qui a créé la forme. Et nous avons conscience continuellement de cette forme. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que Moshe a pris l'identité de Joseph avec lui, en sortant d'Égypte, Moïse ne s'est pas occupé de toute autre chose, il ne s'est occupé que d'une chose, c'est de prendre les ossements de Joseph. Or, les ossements de Joseph, en hébreu, s'appellent Atzmot Yosef. Or, le mot Atzmot peut avoir une double signification, c'est d'une part les ossements de Joseph, et d'autre part, c'est l'identité de Joseph. Shema Etzem, c'est le nom d'identité. Donc, il voulait être fort, Moïse, en sortant d'Égypte. Il savait qu'il devait avoir à assumer et à affronter le peuple juif et tous les événements. Et il y a une seule chose qu'il devait prendre avec lui, c'est quoi? C'est l'identité de Joseph. Et en quoi consiste cette identité de Joseph? C'est que Yosef est perçu dans la Bible comme étant celui qui a eu toutes sortes de sollicitations. Il n'a pas eu une vie très simple. Dès la naissance, depuis 17 ans, il était chez ses parents. Puis après, il a été dans la maison, il a été avec les Ishmaélim, qui l'ont emmené en Égypte. Une fois arrivé en Égypte, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, avec la femme de Potiphar, toutes sortes de problèmes. Puis après, il se retrouve dans un bord, dans un puits, dans une prison. Une fois sorti de prison, voilà qu'il se retrouve vice-roi d'Égypte. Il a eu des confrontations extrêmement importantes avec des milieux ambiants tout à fait différents. Et d'ailleurs, le gros, grand reproche que pouvaient lui faire ses frères, c'est qu'ils ne le reconnaissaient plus comme leur frère, mais ils voyaient en lui simplement un vice-roi d'Égypte. Et Joseph va s'évertuer continuellement à démontrer qu'il est véritablement leur frère, et que tout ça, entre guillemets, c'est du cinéma, hein, c'est un visage extérieur, en lui-même, il est leur frère. Ani, Yosef, Ahichem, Hashem Echartem Otiena. Je suis encore le même Yosef, votre frère, que vous m'avez vendu ici. Ça veut dire que Yosef, malgré les sollicitations, malgré les milieux, tous les milieux dans lesquels il a pu se trouver, et malgré toutes les tentations, il est resté identique à lui-même. Alors que l'eau, par définition, subit toutes les transformations et toutes les formes des contenants dans lesquels elle se trouve, Yosef est par définition celui qui est le même Yosef, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Et Jacob, d'ailleurs, quand il l'a rencontré, il a dit tout de suite, oui, tu es mon fils, ça veut dire tu as eu toutes ces difficultés, tu as eu tous ces problèmes, et tu n'as pas changé, tu es resté tout à fait identique à toi-même. Moïse, en sortant d'Égypte, il devait se consolider par cette identité, parce qu'il sait que maintenant il va avoir des confrontations extraordinaires avec tous les milieux ambiants. Il a pris l'identité de Joseph avec lui, qui consiste à se maintenir continuellement dans son identité et son existence, quelles que soient les sollicitations, quelles que soient les tentations, et des tentations d'identité dans lesquelles on peut confronter. Et Moïse est cette personnalité unique dans l'histoire qui est considéré comme celui qui sort continuellement de l'eau. Moshe, il sort de l'eau, ça veut dire qu'il se maintient continuellement dans son identité, quelles que soient les sollicitations, quelles que soient les difficultés. J'ai vu un commentaire, il dit que le peuple juif s'appelle Am Keshe Oref. Am Keshe Oref. Et c'est un peuple à la nuque roide, ça veut dire qu'il ne veut pas changer d'avis. Et il y a un texte dans le Talmud qui dit que les goyim, par exemple, sont beaucoup plus proches de la Teshuvah qu'Israël. Il leur est plus facile à eux de faire Teshuvah qu'Israël. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'il y a une sorte de je ne sais pas comment expliquer cela, une sorte de fondement de l'identité.